Rencontre,
une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.
Bonjour amis auditeurs, Jean Corcos au micro pour ce direct depuis le studio de Judaïque FM. Alors nous allons essayer d'oublier un peu l'actualité ce matin, une actualité malheureusement pas très riante à la fois dans notre pays et pour la communauté juive. Mais comme vous le savez, je n'oublie ni la ligne éditoriale de notre station, radio ouverte, laïque, progressiste, ni mon engagement personnel de vous faire connaître les associations de terrain qui travaillent pour le dialogue entre communautés et religions. Nous avons reçu quasiment toutes celles travaillant pour le rapprochement entre juifs et musulmans, mais il y a aussi des associations œuvrant pour le dialogue interreligieux entre les trois grandes familles du monothéisme, et parmi elles, la plus ancienne, la Fraternité d'Abraham. J'ai le plaisir d'avoir comme invité ce matin son président. Bonjour Edmond Lille.
Bonjour.
Alors, quelques repères pour nos auditeurs avant de vous poser la première question. D'abord, rappeler que cette série Rencontres avait été fondée il y a déjà plus de 15 ans par mon ami Émile Moiti et moi-même. Or, Émile a consacré toute sa vie depuis des décennies au rapprochement des hommes de foi et de bonne volonté. D'abord comme vice-président, justement, de la Fraternité d'Abraham, puis comme votre délégué. Aujourd'hui, à Jérusalem. Hein.
Exactement, à Jérusalem.
Et
oui.
Il y vit et il est allé donc rejoindre sa famille. Alors, cher Émile, tu pourras nous entendre en différé, puisque toutes les émissions de Judaïque FM peuvent maintenant être écoutées pendant un mois sur notre site, dont je rappelle l'adresse www.judaïque.fm.com. Je t'adresse mon salut et je te redis depuis Paris toute notre reconnaissance. Ensuite, et cela a été un grand honneur pour moi et de mon Lille, votre association a bien voulu m'accepter dans son bureau. J'espère, dans la continuité d'Émile Moiti, profiter de mon nouveau temps libre pour aider un peu au rayonnement donc, de la fraternité. Mais on ne va pas mélanger les casquettes et je m'effacerai devant le journaliste pour cette interview. Alors, première question, je crois que vous avez eu une brillante carrière universitaire comme économiste. Qu'est-ce qui vous a conduit à vous lancer dans cette démarche assez particulière du dialogue interreligieux ?
Eh bien, certainement mes origines familiales, puisque je suis né en France, à Marseille, mais d'un père anglais et anglican, et d'une mère française, provençale et catholique. Mais j'ai longtemps pensé que parmi les aïeux de ma mère, il y avait des judéo-provençaux.
Voilà, donc l'œcuménisme était déjà présent.
Déjà au sein de la famille. Alors, mon école anglaise où j'ai étudié pendant les années de guerre notamment, c'était une école anglicane où tous les matins on commençait par la prière, plusieurs prières et un ou deux hymnes. Et toutes ces paroles directement tirées du Premier Testament. Parce que dans la culture protestante, il y a une très forte culture biblique. Et moi j'ai appris la Bible dans, entre autres, la Bible de la King James Version, dont on a célébré, autant le rappeler, l'année dernière, le 400e anniversaire de cette très grande traduction de la Bible en anglais, qui est un des monuments de la littérature anglaise, au même rang que Shakespeare.
Voilà, il y a une grande différence culturelle donc, entre la France, finalement, et l'Angleterre. C'est-à-dire c'est,
avec l'enseignement biblique qui est à
voilà,
la base.
Qui est à la base.
Dans toutes les écoles, publiques ou privées, on enseigne la Bible.
D'accord. Alors, Edmond Lille, j'aimerais que, en quelques minutes, vous nous rappeliez l'historique de la Fraternité d'Abraham. Quand est-ce qu'elle a été fondée, d'abord ?
Alors, elle a été officiellement créée en juin 1967. La date est significative, c'était la guerre des six jours. Mais elle a été fondée à la Grande Mosquée de Paris.
Oui, c'est un beau symbole.
Et ça, l'événement doit être rappelé. Alors, les quatre fondateurs de la Fraternité, c'était l'ancien recteur de la mosquée à l'époque, Sir Hamza Boubaker.
Le père de l'actuel recteur
d'Alil. Bon. Mmh. André Chouaki, Michel Riquet, le père jésuite, prédicateur de Notre-Dame et ancien déporté.
Et très proche de la communauté juive.
Absolument, okay. Très très proche de la communauté juive. Enfin, Jacques Nantais, le gendre de Claudel, un écrivain de très grande classe. Mais il travaillait déjà depuis plusieurs années à la création de la Fraternité d'Abraham. Il faut dire que, il faut vraiment mentionner ici la création, dès 1947, des amitiés judéo-chrétiennes. Par Jules Isaac, à Aix-en-Provence, Jules Isaac, l'auteur de ce grand ouvrage « Jésus et l'enseignement du mépris »,« Jésus et Israël, l'enseignement du mépris », qui a été un des textes qui a, au fond, ouvert les yeux aux autorités du Vatican sur sur finalement la responsabilité indirecte, mais réelle néanmoins, de l'enseignement chrétien sur le judaïsme.
Et j'ai remarqué d'ailleurs, en entrant dans la fraternité, que beaucoup de membres des amitiés judéo-chrétiennes sont également dans l'association.
Exactement, oui, parce que c'est la plus ancienne des associations bilatérales, l'association Amitié judéo-chrétienne de France, très très active, avec son pasteur, son président, le pasteur Florence Thaumann, qui est actuellement en Israël, du reste. Alors, il y a eu donc cette création à laquelle a été associé André Chouraki, dès 1947, des amitiés judéo-chrétiennes, et puis ensuite tous ces textes sur l'enseignement du mépris qui sont parvenus au Vatican, Jules Isaac lui-même, André Chouraki, une autre personne qui m'a beaucoup marqué, frère Bruno Hussard, qui a fondé en Israël le village de Neve Shalom, où cohabitent musulmans
et juifs.
Alors, tout ceci fait que, dans les années 60, après Vatican II, après Nostra Aetate, la volonté s'est manifestée auprès d'un certain nombre de théologiens, de philosophes, d'historiens, de créer la Fraternité d'Abraham.
Alors, quelques questions pratiques et concrètes concernant l'association. Combien avez-vous de membres ?
Difficile à dire, car il y a des adhérents, il y a des abonnés, il y a des abonnés adhérents. Je dirais de l'ordre de 700 à 800.
Très bien. Est-ce que vous avez une représentation équilibrée de juifs, chrétiens et musulmans, à la fois parmi les membres et dans votre bureau ?
Représentation équilibrée, oui et non. Pas assez, certainement pas assez de musulmans, encore que ceux qui sont présents sont très actifs. Et je dois dire que dans les publications que nous assurons, on cite des noms comme, en dehors du recteur lui-même, Dalil Boubaker, Jeloul Sediki, le directeur de l'Institut Al-Ghazali. Nous avons publié il n'y a pas très longtemps un texte de l'imam de Bordeaux, Tarek Obrou. Nous avons publié un autre texte, Tarek Ben Garay, sur la finance islamique. Nous allons publier un texte de l'imam de Drancy, Chalgoumi, dans un numéro qui est sous presse, qui va sortir cette semaine. Donc nous avons beaucoup de contacts, pas assez.
Pas assez au niveau de la base.
Oui.
D'accord. Et vos activités, finalement, en quoi consistent-elles ?
La principale activité maintenant, c'est d'organiser des groupes de réflexion sur des sujets d'actualité, mais de grande importance, et de publier un texte ou un ensemble de textes sur ces sujets. On y reviendra plus tard, si vous voulez.
Au niveau de la revue, oui.
C'est dans la revue. Nous avions, à une certaine époque, une grosse activité de conférences, chaque fois avec trois intervenants, un juif, un chrétien, un musulman. Et nous avons toute une série d'archives très riches sur des textes, sur des sujets tels que la foi, la croyance, la science ou la défense de l'environnement. Tous ces textes sont en archives
et accessibles. Et qu'il faudrait peut-être faire connaître peut-être davantage.
Oui, il faut faire connaître davantage. Nous avons un site qu'il faut améliorer, rendre beaucoup plus interactif et vivant. Mais nous avons des archives avec des communications, entre autres de Michel Riquet, de très grande valeur. Et d'André Chouraki, bien sûr.
Alors justement, parlons d'André Chouraki pendant les quelques minutes qui nous restent avant la pause publicitaire, parce que c'est vrai que c'est une personnalité extraordinaire qui associait une érudition encyclopédique et puis un idéal enthousiaste, je dirais presque juvénile, qu'il a eu jusqu'à la fin de sa vie. Et j'avais eu le grand honneur de faire en juillet 2001 une interview de lui par téléphone depuis Jérusalem. En plus, c'est une ville dont il a été le maire adjoint pendant quelques années.
Donc il y avait Jérusalem, exactement, oui.
Voilà, donc il y avait le côté à la fois pratique,
oui,
de terrain, et puis l'aspect spirituel. Est-ce que vous pourriez rappeler sa contribution concrète à la connaissance des textes sacrés des grandes
religions ?
Oui,
alors très très volontiers, parce que Chouraki, c'est vraiment un des grands prophètes de notre temps, qui a toujours allié la pensée, la prière et l'action. Il a été maire adjoint de Jérusalem, comme vous le disiez. Il a beaucoup fait à Jérusalem, en Israël, pour faciliter l'intégration d'Israël des Juifs d'Afrique du Nord et des Juifs en général venant du monde arabe. Mais sa grande œuvre, c'est indiscutablement la traduction. Donc la traduction par une seule et même personne, dans un temps relativement court, même pas une quinzaine d'années, des trois grands textes fondateurs des monothéismes. La Bible hébraïque, le Nouveau Testament et le Coran.
C'est extraordinaire.
Alors le fait que ce soit une seule et même personne qui ait traduit ces trois ouvrages, avec chaque verset en fait est commenté, renvoie à d'autres versets. Moi je suis plongé à longueur de journée dans ces traductions, je suis émerveillé de la richesse de sa traduction, mais aussi de tout l'apport qui nous donne de cette origine commune, de cette inspiration commune, de cette unique et même alliance. Le feu de l'alliance, c'est le nom de son dernier ouvrage, juste avant son décès, c'est son testament, le feu de l'alliance. C'est justement par cette traduction de ces trois grands ouvrages qui nous fait découvrir nos origines communes, nous, les enfants d'Abraham.
Et je crois que, donc il y a un film qui a été...
Exactement, oui.
Pour lui rendre hommage, est-ce que vous pouvez en parler rapidement?
Alors le film « L'écriture des écritures » qui a été produit par son fils aîné, Emmanuel Chouraki, que la Fraternité d'Abraham, je dois dire, projette très souvent et très fréquemment. Nous avons déjà organisé plus d'une dizaine de projections. Il y en a d'autres programmées. La prochaine sera du reste à Aix-en-Provence le 14 novembre. Parce que ce film qui décrit la vie et l'œuvre de Chouraki, et notamment cette traduction des trois grands ouvrages de la révélation abrahamique, ensuite confirmée par Moïse et les prophètes d'Israël, confirmée par Yeshua, et confirmée enfin par Mohammed, c'est vraiment le même message, la même alliance. Alors ce film décrivant la vie et l'œuvre de Chouraki suscite toujours un immense intérêt, beaucoup de questions, et... L'ayant vu, les auditeurs se plongent dans les textes de la Bible ou du Coran ou du Nouveau Testament, mais se plongent aussi dans d'autres ouvrages de Chouraki pour découvrir ce personnage tout à fait extraordinaire. Et je voudrais peut-être rajouter que, tout à fait à la fin de sa vie, il a une phrase que j'aime souvent répéter. Autant il faut que les trois monothéismes se réunissent et affirment fortement face au monde l'importance de ce message monothéiste de fraternité, de solidarité et d'amour fraternel de son frère, autant il convient que les trois monothéismes ne s'enferment pas dans un ghetto monothéiste, mais s'ouvrent notamment aux spiritualités de l'Asie.
Qui est actuellement la partie du monde en pleine expansion.
En pleine expansion,
qu'il faut pas ignorer,
avec
tout à fait.
Plus de 2 milliards de personnes qui n'ont pas du tout la tradition monothéiste, mais qui ont eu ce message du Tao, de Confucius, de Kongzi, etc.
Merci Edmond Lille. Nous sommes arrivés donc à la moitié de notre émission. Je vous donne rendez-vous dans 2 minutes après la pause publicitaire. Eh bien, amis auditeurs, nous nous retrouvons donc pour la deuxième moitié de cette émission Rencontre. Alors, le sujet de ce matin, c'est la fraternité d'Abraham, trois religions pour un dialogue. La fraternité d'Abraham est une association qui a pour but de promouvoir le dialogue et les échanges entre les trois grandes religions monothéistes, juifs, chrétiens et musulmans. Nous avons le plaisir de recevoir son président, M. Edmond Lille. Alors, Edmond Lille, peut-être donner les coordonnées de la fraternité à notre micro.
Bon, alors, chers amis... si vous voulez nous rejoindre, et j'espère que vous serez nombreux à vouloir nous rejoindre, je vous invite à téléphoner au 01 45 49 46 33. Il y a un répondeur, mais on vous répondra très vite. Vous pouvez aussi nous écrire Fraternité d'Abraham, boîte postale 231.08 75 364 Paris CEDEX 08. Voilà.
Merci. Et pour les gens qui n'auraient pas eu le temps de noter, comme on le rappelait dans la publicité à l'instant, on peut réécouter les émissions en podcast. Donc, il suffit de retourner donc, sur le site de la radio pour réécouter l'adresse de la Fraternité d'Abraham. Alors, l'association Edmond Lille a un comité de parrainage prestigieux. Hein, on y trouve à la fois le grand rabbin de France, le président du Conseil français du culte musulman, le président de la Fédération protestante de France, l'archevêque de Lyon. Et on peut imaginer que vous êtes naturellement bien accueilli partout, dans des synagogues, des mosquées, des églises. Mais sincèrement, est-ce que c'est vraiment le cas? Et est-ce qu'il n'y a pas de plus en plus un repliement des croyants de la base, hein, disons en raison du climat qui n'est pas bon? Et là, je voudrais parler d'un côté des juifs, et à cause de la vague antisémite qui n'est pas... simplement une vague hostile diffuse. Ce sont des agressions physiques très graves. Et donc, beaucoup perdent espoir, c'est vrai, dans ma communauté. Et puis, je pense aux musulmans parce que, effectivement, on sait que, par exemple, ce sont des musulmans fanatiques qui commettent certains actes, alors soit agressions physiques, soit carrément terrorisme. Et l'immense majorité n'y est pour rien, mais... eux se sentent stigmatisés. Ils disent « on nous montre du doigt ». Alors comment vous arrivez à gérer ça?
Non, ce n'est pas facile parce que de fait, vous avez raison, il y a une tentation de repli sur soi dans chacune des communautés, parce qu'on se sent mieux entre soi, entre les gens qu'on connaît, partageant le même héritage culturel, la même foi. Mais il y a aussi, je dois dire, et là c'est le côté très positif, moi je suis très frappé de l'ouverture des uns et des autres. Moi je suis profondément impressionné par la qualité du dialogue judéo-musulman. Avec les amitiés judéo-musulmanes de France, font un travail extraordinaire avec leur quart de l'amitié, sillonnant les villes françaises ou les banlieues parisiennes, pour montrer à la population que jeunes juifs et jeunes musulmans peuvent jouer ensemble, faire de la musique ensemble, discuter ensemble.
Alors il y a aussi, il faudrait le rendre hommage, l'association Coexister que j'ai reçue il y a quelques mois.
L'association Coexister qui sont venues nous trouver il n'y a pas très longtemps et nous faisons œuvre commune. Nous sommes très frappés par l'action de ces jeunes juifs, musulmans et chrétiens qui travaillent ensemble avec une action très forte du don du sang. Alors le sang n'est pas juif ou musulman et chrétien, il est le sang qui apporte la vie et qui sauve des malades ou des mourants. Et ça, c'est un geste très fort de montrer qu'on soigne. C'est une des traditions dans nos traditions monothéistes, c'est vraiment l'œuvre de soins, de porter des soins aux malades, aux déshérités et de faire une action d'enseignement. Alors Coexister est très actif dans l'action d'enseignement et nous faisons œuvre commune avec eux. Et je crois que c'est très important que nous puissions avoir des actions à la Fraternité d'Abraham avec des autres mouvements, avec d'abord les autres mouvements bilatéraux, si j'ose dire, les amitiés géochrétiennes, les amitiés judéo-musulmanes et le GAIC, le groupe des amitiés islamo-chrétiennes. Donc notre cycle, c'est un triangle. Et le triangle, c'est les trois monothéismes. Et il y a un dialogue fort entre chacun des trois sommets du triangle.
Voilà,
et
vous n'êtes pas concurrent, vous êtes complémentaire en fait.
Nous sommes complémentaires, nous voulons montrer la synthèse de tout ceci, que c'est une seule et même alliance que nous avons tous reçue.
Alors, Edmond Lille, on est obligé aussi de se poser tous, avec une certaine modestie, un questionnement sur l'efficacité du travail interreligieux. Je pense en termes médiatiques et pédagogiques. Est-ce que les religions n'ont pas une très mauvaise presse en ce moment ? Vous avez dû certainement lire dans la presse les attaques extrêmement virulentes de d'Onfray, de Solaire, de Badiou. Hein, les monothéismes sont attaqués de front. On dit qu'ils sont même la source des grands totalitarismes. Donc c'est assez abject comme attaque, mais enfin, on le lit. Et c'est vrai qu'il y a des religions qui sont instrumentalisées par des criminels et des groupes terroristes. Alors là, bien sûr, on pense à l'islamisme radical, mais elles sont aussi instrumentalisées par des personnalités politiques, parce qu'on voit dans toute l'Europe maintenant combien devient rentable la peur de l'islam. C'est une religion qui est confondue avec sa mouvance la plus radicale. Vous parlez d'une actualité brûlante, vous avez vu hier comment des jeunes d'extrême droite, par exemple, ont fait une manifestation sur le site d'une mosquée en construction.
Exactement.
Donc c'est une ambiance très malsaine. Qu'en pensez-vous ?
Alors c'est vrai que les religions sont considérées par une certaine partie de l'opinion, par, je dirais, l'athéisme militant et agressif qui considère que les religions sont les sources de la violence dans le monde.
Tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on leur répond alors ?
Alors moi, il y a du reste un grand auteur britannique qui a vendu des millions d'exemplaires. Son livre, c'est Dawkins. Son livre a été traduit sous le titre « Dieu, la supercherie », qui essaie de démontrer que les religions sont à l'origine des guerres, etc. Mais c'est une lecture tout à fait biaisé de nos textes. C'est pas du tout une analyse scientifique, il se prétend scientifique. Et je crois qu'il faut que du point de vue des religions, on montre que les religions monothéistes sont des religions de l'amour. Aime ton prochain comme toi-même. C'est le texte du Lévitique et il y a tout le temps ce refrain, aime ton prochain comme toi-même. L'étranger qui vit auprès de toi, ne le méprise pas. Hager, Hagarba, Arzahim, Lotono Utu. Ne le méprise pas, considère-le comme toi-même, car toi aussi, tu as été étranger au pays d'Égypte, moi, l'Éternel, votre Dieu. Et Rachi, en commentant ce texte, dit bien, je suis l'Éternel, votre Dieu, je suis ton Dieu et je suis son Dieu. Donc, respecte l'étranger. C'est un message permanent et constant dans la Bible. Alors, ça, c'est le message des religions. Alors, de tout temps, les religions ont été instrumentalisées par le pouvoir.
Par le politique.
Constantin, lorsqu'il est devenu empereur de Rome, a voulu rétablir une religion à Rome, telle que la religion des Césars avant lui. Et cette religion, il a pris, c'était le christianisme. Et puis ensuite, en Europe, on a quand même deux ou trois siècles de guerres de religion qui se sont terminées par ce fameux traité d'Augsbourg, à chaque prince, à chaque région, à chaque prince, sa religion. Cuius aegio et eius religio. Donc on voit que le pouvoir a toujours instrumentalité les religions.
On le voit même au Moyen-Orient actuellement, oui. entre chiites et sunnites.
Bien sûr.
Il y a finalement la rivalité ancestrale entre les Arabes et les Perses.
Et dans l'histoire de l'islam, il y a toujours eu cette rivalité entre ces deux tendances. Alors ça, c'est vrai, mais c'est oublier que le message fondamental que nous avons reçu, c'est un message d'amour et de fraternité et d'aide aux plus pauvres, aux plus démunis. Bon. Alors il faut que nous, les religions, nous rappelions ceci haut et fort et que ce rappel se soit fait publiquement par les trois religions.
Alors, votre association s'appelle donc Fraternité d'Abraham, et il faut vraiment rappeler à nos auditeurs, donc de la communauté juive, ce que représente Abraham, parce que ce n'est pas seulement le premier patriarche d'Israël, la Torah nous enseigne aussi que c'est le père de toutes les nations.
Le père de toutes les nations, le père des croyants, comme on le dit absolument.
Voilà, des croyants. Et c'est vrai qu'on se retourne un peu vers la figure du père comme figure protectrice, et surtout dans des périodes de crise. Or, nous vivons une crise sans précédent, une crise économique, une crise financière. Il y a des pertes de repères, il y a des pertes d'identité. Quel humanisme peut-on retrouver, justement cet humanisme, pour nous en sortir? Et comment les religions peuvent y aider? Parce qu'il y a souvent des discours un peu moralisateurs, désincarnés, inaudibles. Comment avoir un discours concret, pratique?
Il faut un discours concret et appuyé par des actions concrètes. Bon, à la Fraternité, nous avons voulu répondre à ce genre de problème, notamment à la crise financière et économique. Et c'est un de nos adhérents très, très influents, Bernard Eisenberg, qui nous a proposé il y a 2 ans de préparer un numéro spécial de la revue sur éthique et économie. En partant de l'idée que la crise financière et économique dans laquelle nous sommes, ce n'est pas un accident. Cette crise est née en grande partie comme le résultat du mépris total de l'enseignement dans nos textes fondateurs, de l'enseignement de l'honnêteté dans les affaires entre les hommes en société. Que les poids et mesures soient justes et équitables et pas faussés, qu'un contrat donné, que la parole soit respectée, qu'il n'y ait pas exploitation du salarié, etc. C'est dans nos enseignements traditionnels. Et parce que s'il y a eu un mépris total de ces enseignements, on a voulu vendre des prêts immobiliers à des gens insolvables, parce que ça faisait du chiffre d'affaires sur lequel les vendeurs étaient rémunérés par des primes exorbitantes. Et puis ensuite, ces prêts immobiliers ont été reficelés dans d'autres types de produits, ce qu'on appelait la titrisation de ces prêts immobiliers pour être vendus plus largement sur tout le marché. Et on a fabriqué donc des montagnes de dettes qui n'étaient pas récupérables. Et ça, ça a été fait sciemment. Il y a eu un Madoff qu'on connaît, mais derrière le Madoff qu'on connaît qui a été condamné, il y a des dizaines de milliers de Madoff plus petits.
Et cela s'est traduit ensuite par la crise que nous connaissons, c'est-à-dire des millions d'emplois qui ont été détruits, une détresse sociale partout.
Mais ça, on a voulu dire, et ça, dans nos traditions juives, musulmanes et chrétiennes, on voit que c'est le mépris total des enseignements que nous avons
reçus. Qui a participé à ce numéro spécial?
Dans ce numéro qui est sorti au début de cette année, donc autour de Bernard Eisenberg, Henri Atlan, Paul Dembinski, Roger Forou, Tarek Oubrou, que j'ai déjà mentionné, l'imam de Bordeaux, Tariq Ben Garay sur la finance islamique. Nous avons beaucoup à apprendre de la finance islamique pour le respect justement de ces règles financières. Et puis, Michel Combe dessus. Bon,
des grands noms.
Et nous voulons maintenant poursuivre ce travail de publication par un grand colloque international sur ce même thème.
Parfait. Alors, je crois qu'il y a eu ensuite éthique et fraternité. C'était un numéro.
Alors, un autre numéro spécial sur la fraternité. Et nous avons voulu, là aussi, suivant le précepte d'André Chouraki, aller au-delà des trois monothéismes. Et nous avons demandé à des amis bouddhistes de prendre la direction de ce numéro. Il y a des contributions de bouddhistes, des contributions de protestants, de catholiques, d'orthodoxes, mais également de juifs et de musulmans.
Parfait. Et à la rentrée, alors on en parlait tout à l'heure en aparté, il y a des numéros spéciaux, je crois, sur le sort des minorités.
Des minorités. Alors nous avons 2 numéros sous presse qui vont sortir d'ici l'un, j'espère, dans la semaine qui vient, et le suivant en décembre, sur les minorités chrétiennes du Proche-Orient. Leur sort est vraiment très préoccupant. Il faut que nous ayons une solidarité des autres traditions abrahamiques autour pour apporter notre soutien en tant que juif ou en tant que musulman, à ces minorités chrétiennes qui sont au Proche-Orient depuis l'origine du christianisme. Mais au-delà du sort des minorités chrétiennes, nous voulons aborder le sort des minorités tout court, où qu'elles soient. Parce que dans le monde globalisé où nous vivons, il y a partout des minorités.
Et puis on voit effectivement le danger de représailles à la limite, parce qu'on est au courant de ce qui peut se passer par exemple en Afrique contre des chrétiens, et puis on a vu tout à l'heure des extrémistes qui peuvent s'en prendre à des musulmans, pour se venger.
Chacun d'entre nous pouvons être minoritaires et étrangers dans le pays où nous vivons. Et c'est là où il faut se rappeler la vie d'Abraham, qui lui a été étranger partout où il est allé, et partout où il a respecté les pays où il accueillait, mais partout il a voulu marquer son sens profond d'hospitalité et d'accueil de l'autre.
Eh bien, c'est une magnifique conclusion que vous nous donnez, Edmond Lille, avec donc la figure d'Abraham. Abraham, notre père, comme le dit la tradition juive, mais le père aussi de toutes les nations. Et donc l'association La Fraternité d'Abraham porte son message et son idéal. Merci Edmond Lille. Merci amis auditeurs de nous avoir suivis. Et je vous donne rendez-vous dans 15 jours.
Et merci de votre accueil.
Au revoir. Au revoir.
Rencontre, une émission de Jean Corcos consacrée à la connaissance du monde musulman.